pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, c'est l'histoire d'un cercle vertueux. Des entreprises sont incitées à verser de l'argent dans un fonds financier qui sert à aider des agriculteurs à cultiver de manière durable. Un moyen pour les premiers de compenser leurs émissions de carbone et pour les seconds de sortir de la pauvreté. C'est le principe du fonds d'investissement carbone Livelihoods, créé en 2011 par 10 multinationales. La semaine dernière, ils ont lancé un nouveau projet au Kenya, au pied du mont Elgon, qui va améliorer la vie de 30 000 fermiers. Laure Broulard est allée à leur rencontre, un reportage que vous découvrirez tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI.
Depuis 1998, le programme international L'Oréal UNESCO accompagne des jeunes chercheuses pour promouvoir la féminisation des métiers scientifiques et techniques. Plus de 2250 femmes ont obtenu des bourses pour poursuivre leurs recherches. En France, le programme se décline depuis 2007. 30 jeunes femmes ont été récompensées cette année, dont les trois qui sont avec moi dans ce studio de RFI. J'ai 6 yeux braqués sur moi. Écoutez bien, parce qu'elles vont peut-être, à leur échelle, changer le monde. Bonjour Audrey Asson.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au laboratoire d'océanographie et du climat, expérimentation et approche numérique du Centre national des études spatiales. J'ai bien tout dit ?
Vous avez tout dit, c'est parfait.
Voilà, c'est important pour les chercheurs de bien donner tout le pedigree de l'endroit où vous travaillez. Alors vous travaillez sur la salinité des océans.
Effectivement, je travaille sur la salinité des océans et plus particulièrement sur la dynamique océanique parce qu'on cherche à utiliser cette salinité de surface des océans comme pluviomètre, c'est-à-dire qu'on va essayer d'utiliser la salinité pour pouvoir observer les pluies et l'évaporation qui a lieu au-dessus des océans. Parce que le cycle hydrologique a lieu à 80% au-dessus des océans.
Alors vous allez nous expliquer tout ça dans un instant et nous expliquer quelles applications ça peut avoir, notamment pour l'étude des changements climatiques. À vos côtés, Aline Meul, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au laboratoire de biologie et de biométrie évolutive de l'Université Claude Bernard de Lyon. Alors vous travaillez sur l'importance du sexe chez les palmiers.
Oui, ça intrigue. En effet. Alors parce qu'il y a certains palmiers qui ont des individus mâles et femelles séparés. Et c'est important parce qu'en fait, chez les plantes, ce sont les femelles qui portent les fruits. Donc typiquement, pour les fruits qu'on va manger, on va seulement vouloir cultiver les femelles et pas les mâles qui ne sont pas intéressants. Donc l'idée, c'est de pouvoir sélectionner les femelles pour cultiver que les femelles. Et comme les palmiers, ça met plusieurs années à fleurir et donc plusieurs années à ce qu'on puisse identifier le sexe, le but, c'est de le faire avec la génétique.
Voilà, et vous allez nous expliquer les nombreuses implications et applications que cela peut avoir. Bonjour Maëlys Piquemal.
Bonjour.
Vous êtes la troisième lauréate ici dans ce studio. Vous êtes chercheuse, vous, dans l'unité mixte de recherche CNRS Thalès de l'Université Paris-Sud, Paris-Saclay. Alors vous travaillez sur la spintronique.
Ouais. Bon, en gros, faut voir ça comme une nouvelle manière, enfin une façon différente de transporter l'information qui ne va pas être de l'électronique. En gros.
Alors l'information qui circule entre nos portables,
voilà,
nos ordinateurs.
Tout ce qui va être données informatiques dans nos portables, smartphones. Voilà,
qui consomme énormément d'énergie.
Voilà.
C'est tout le problème. Et vous
exactement,
avez des pistes de solutions. Vous
c'est
allez
ça,
nous en parler dans un instant. Alors Audrey Asson, avant de rentrer dans le détail de votre recherche, il faut rappeler que l'océan joue un rôle essentiel dans l'équilibre du climat de notre planète.
Oui, il joue un rôle essentiel parce qu'il va absorber l'énergie de l'atmosphère. Et donc l'atmosphère est chauffée par le soleil et puis cette énergie est ensuite transférée vers l'océan. Donc l'océan a cette capacité de stocker l'énergie, mais il a aussi la capacité de stocker certains gaz à effet de serre. Et il joue un rôle très important.
Alors il y a aussi un indicateur des conséquences des changements climatiques et c'est là où vos recherches interviennent puisque vous travaillez, vous le disiez, sur la salinité de l'eau. Pourquoi ?
L'idée derrière notre travail sur la salinité de l'eau, c'est de comprendre mieux le cycle hydrologique. Et le cycle hydrologique évolue avec le changement climatique. Puisque si l'atmosphère est de plus en plus chaude, comme on l'observe, elle va avoir la capacité à retenir plus de vapeur d'eau, plus d'énergie. Et donc on va avoir une modification de ce cycle hydrologique. Ce que j'entends derrière cycle hydrologique, ça va être le cycle des précipitations et de l'évaporation.
C'est ce qu'on apprend un peu à l'école primaire. Hein.
Exactement, exactement. Oh. C'est les pluies, les rivières, l'océan qui évapore de retour vers l'atmosphère.
Et alors, est-ce qu'on peut s'attendre avec les changements climatiques à avoir de plus en plus de pluie parce qu'il va faire de plus en plus chaud, donc il y aura de plus en plus d'évaporation, ou ce n'est pas si simple ?
Ce n'est pas si simple. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir plus de transferts. Il va y avoir plus de transferts hydrologiques, mais ce n'est pas encore certain la manière dans laquelle ça va se produire. C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir plus typiquement de cyclones, ou est-ce qu'il va y avoir le même nombre de cyclones, mais de plus forte intensité ? Donc c'est ce qu'on essaye de comprendre.
Et alors pour comprendre comment ça se passe au niveau global, j'imagine que vous ne passez pas votre temps à faire des petits prélèvements dans tous les océans du monde, vous appuyez sur les techniques modernes que sont les satellites notamment.
Voilà, donc moi je suis spécialisée sur l'observation de la salinité de surface par les satellites. On a 3 satellites qui observent la salinité, 2 américains et un européen.
Mais comment on observe la salinité par satellite ?
Ça ne se voit pas à l'œil nu. C'est des satellites qui sont passifs, c'est-à-dire qui prennent des photos comme un appareil photo prend une photo. Mais au lieu de prendre une photo dans la même gamme de fréquences que l'œil peut détecter, ça va être dans une autre gamme de fréquences, dans le micro-ondes.
D'accord. Simplement. Et ça permet de voir la salinité.
Et à partir de cette information, on peut en déduire la salinité, effectivement.
Et donc on comprend mieux le lien avec les variations du cycle hydrologique dont vous parliez. Mais alors à quoi ça sert ?
De pouvoir mieux observer le sel et donc mieux observer le cycle hydrologique, ça va nous permettre de savoir où se déplacent les précipitations, où se déplacent les zones arides. Parce qu'on a observé depuis certaines années que les endroits où il y a de fortes précipitations, on a encore plus de précipitations. Et là où on a des sécheresses, il y a encore plus de sécheresses. Et avant de pouvoir modéliser, c'est-à-dire de pouvoir prédire l'avenir, il faut savoir observer et comprendre ce qui se passe. Et toutes les informations qu'on va pouvoir obtenir vont nous permettre de faire des modèles plus performants qui vont nous permettre eux-mêmes de nous donner des prédictions dans le futur meilleures sur le changement climatique.
Donc ça peut nous aider à mieux nous adapter.
Exactement, exactement.
Et il y a des régions où on a plus d'informations que d'autres ?
Avec les satellites, l'avantage, c'est qu'ils couvrent la surface de la Terre en 3 jours. Donc en 3 jours, on couvre absolument toute la surface de l'océan.
Et donc, est-ce que vous savez déjà s'il y a des zones qui seront plus concernées par les sécheresses que d'autres ? Ça, on a des visions quand même.
Pour le moment, ce que je disais, c'est qu'on va avoir de plus en plus de contrastes de salinité. Donc ça veut dire que les zones très pluvieuses vont être encore plus pluvieuses et les zones arides, encore plus arides.
Ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle.
Pas forcément, non.
Et là, donc, on fait un lien justement avec vos recherches, Aline Moyle, puisqu'il y a un autre grand défi hein, qui est de nourrir l'humanité sur une planète aux ressources limitées. Et là, on comprend bien que s'il pleut plus là où c'est déjà très humide, où il fait plus sec, là où il y a déjà des grandes sécheresses, il va falloir vraiment optimiser cette agriculture. Et c'est l'objet de votre recherche. Alors vous travaillez surtout sur le sexe des palmiers, mais en Amérique du Sud, je crois.
Oui, c'est un palmier qui est cultivé en Amérique latine, qui s'appelle le palmier Teperilot. Donc c'est un palmier qui a des individus mâles et femelles. Et là, c'est un peu une exception où ça va être les palmiers mâles qui sont intéressants, parce que ce sont les fleurs des palmiers mâles qui sont consommées comme légumes traditionnels. Et donc ça va être intéressant de pouvoir identifier les individus mâles de façon précoce pour éviter de cultiver le sexe inutile dans les plantations.
Comment on fait pour les identifier de façon précoce ?
On va utiliser l'ADN parce que en fait, c'est un peu comme chez l'humain où les hommes sont XY et les femmes sont XX, c'est les chromosomes sexuels. C'est la même chose chez les plantes. On a les mâles qui sont XY, les femelles XX. Et durant mes travaux, j'ai développé un programme informatique qui va permettre d'identifier les chromosomes sexuels. Et en ayant identifié ces chromosomes sexuels, on peut, juste en regardant l'ADN d'une plante, savoir si c'est un mâle ou une femelle. Et du coup, on n'a plus besoin d'attendre que le palmier fleurisse, attendre parfois plusieurs années que le palmier fleurisse pour savoir si c'est un mâle ou une femelle, et après ça, ne garder que la moitié des arbres.
Voilà. Donc ça veut dire que vous allez éradiquer totalement les palmiers mâles de femelles de cette espèce. Ouais. Mais est-ce que ce n'est pas un problème quand même de, comme ça, jouer sur les écosystèmes uniquement par nécessité ?
Non, en fait, ça ne va pas porter atteinte à l'écosystème. C'est un peu la même chose en fait que dans un troupeau de brebis, où en fait, il n'y a pratiquement que des femelles. Et là, ça va être pareil, c'est une plantation de palmiers où il y aura, bon, suivant l'espèce de palmier, ce sera soit que des femelles, soit que des mâles.
Et vous avez l'intention de travailler sur d'autres plantes ?
passe simplement ce palmier-là ?
Voilà, alors j'aimerais beaucoup travailler sur d'autres plantes cultivées. Il y a le kiwi, où il reste encore beaucoup à faire. Il y a aussi le quinoa et aussi le ginkgo biloba, qui est un arbre qui a des propriétés médicinales.
Donc on voit bien que vos recherches peuvent avoir des applications multiples. C'est aussi le cas de vos recherches, Maëlys. Vous, vous travaillez, donc on le disait, sur la façon dont on consomme de l'énergie, finalement, quand on fait une recherche sur notre téléphone portable ou sur notre ordinateur. Tout ça, ça fait appel à des data centers, des centres de données qui consomment énormément d'énergie. Et vous, vous avez trouvé un moyen peut-être de limiter cette consommation d'énergie. Alors, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer simplement ?
En fait, aujourd'hui, tout ce qui va être transport et stockage des données se fait via l'électronique et tout ce qu'on appelle l'industrie des semi-conducteurs. La manière de transporter et de stocker les données via la spintronique est complètement différente. Elle utilise le magnétisme. Alors, il y a un exemple simple qui montre que le magnétisme, c'est plus stable. C'est tout simplement quand vous prenez votre magnet et que vous allez le coller sur votre frigo, bah, vous constatez bien qu'il reste bien collé au fil des années, qu'il ne se décolle jamais. Et donc, en fait, c'est cette nature stable dans le temps qui est déjà très intéressante pour tout ce qui va être le stockage des données et qui a déjà donner des nouvelles mémoires qui vont être plus performantes, qui sont les MRAM. Et ça va être des mémoires qui vont être...
Je m'accroche, je vous assure, je suis hyper concentrée.
Alors en fait, c'est juste le terme MRAM qui fait peur. Mais en soi, il faut juste se dire que c'est des nouvelles mémoires qui vont remplacer les mémoires qu'il y a dans nos ordinateurs, qui sont les mémoires vives, qui sont les mémoires qu'on a en accès, en premier accès. Et qui vont être plus endurantes, non volatiles, plus rapides et qui vont moins consommer d'énergie. Donc déjà, en fait, toute cette étape de stockage des données est révolutionnée grâce à la spintronique. Et moi, en fait, ce que je vais faire, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire de révolutionner tout ce qui va être le transport des données via aussi la spintronique. Donc changer la manière de transporter les données et avec un matériau qui est aussi très nouveau, qui est le graphène. Alors, on en entend pas mal parler pour tout ce qui est électrode flexible, transparente ou des choses comme ça. Bon.
Et comment est-ce qu'on peut transférer des données grâce à cette matière ?
C'est un matériau très particulier. Du coup, les électrons, en fait, ils vont pouvoir se déplacer très vite sur la surface. Ils ne vont quasiment pas rencontrer d'obstacles.
Donc, ça veut dire que les câbles qui sont sous les mers et qui relient les différents continents pour échanger les données entre nos téléphones, nos ordinateurs et tout ça vont être revêtus d'une nouvelle matière, c'est ça l'idée ?
À terme, oui, ça pourrait.
Enfin, ça pourrait être le débouché de votre recherche.
Oui,
et ça pourrait,
à long terme.
Ça pourrait aboutir à quel type d'économie d'énergie ? Parce que les data centers, aujourd'hui, ces centres de stockage de données, consomment énormément.
Oui, alors ils consomment 9% de l'électricité en France, donc ce qui est assez gros.
Et à l'échelle mondiale, j'imagine
à l'échelle mondiale, alors j'avais lu 2% de la consommation énergétique mondiale.
Je vous avais prévenu en début d'émission, les trois jeunes femmes qui sont autour de moi peuvent potentiellement changer le monde. You build your story fabrication. Exaggeration of trial until it falls all to pieces, starts to crumble around you. Message from the start, my faith is built upon. Why you always lie?
Why you always lying? Bunch of truth tellers. Jay, boys, tell the story.
I sent sticks and stones and break my bones, but your words will never hurt mine.
I ain't scared of that. One more time, boys.
I sent sticks and stones and break my bones, but your words will never hurt mine.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI en compagnie de trois jeunes scientifiques françaises qui ont toutes trois reçu une bourse pour poursuivre leurs recherches grâce au programme international L'Oréal UNESCO. Audrey Hasson, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à la salinité des océans ? C'est le besoin de vous sentir utile ?
Effectivement, pour moi, le changement climatique, c'est le gros défi face à l'humanité pour le siècle qui arrive. Et il faut toujours mieux le comprendre pour pouvoir mieux prédire son évolution. Et pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on va toujours vouloir faire pousser des palmiers ou utiliser nos ordinateurs portables, mais ce ne sera pas possible s'il n'y a plus de pluie ou si, justement, il y a beaucoup trop de pluie. Donc, il faut garder cet équilibre. Et la planète, c'est un système qui est très fragile. Il faut savoir quelle va être son évolution.
Et vous avez l'impression que les femmes ont du mal à exister dans cette science du climat, par exemple? On a Valérie Masson-Delmotte, qui est quand même une grande climatologue française aujourd'hui, vice-présidente du groupe 1 du GIEC. Il y a de plus en plus de femmes quand même.
Il y a effectivement beaucoup de femmes dans mon secteur, mais ça reste inférieur par rapport au nombre d'hommes. Et je pense que oui, c'est important d'avoir un bon équilibre.
Donc c'est pas inutile, cette bourse.
C'est pas inutile, non, pas du tout.
Aline Moineuve, vous partagez ce constat?
Oui, en effet, moi je pense qu'un problème auquel il va falloir répondre dans le siècle à venir, c'est nourrir la population humaine, sachant qu'on est déjà plus de 7 milliards, ça va continuer à augmenter très rapidement.
Sera probablement 9 milliards en 2050.
Voilà, et donc tout ce petit monde, il faut le nourrir. Et en même temps, il ne faut pas non plus complètement détruire notre planète et toute sa biodiversité. Et donc si on peut cultiver nos plantes d'une meilleure façon, qui permettent d'utiliser moins de ressources, et ben, c'est tout bénéfice pour la planète.
Mais il explique mal.
Moi, ben, finalement, je rebondis plus aussi sur le réchauffement climatique, c'est-à-dire que on peut observer le monde et voir comment tout se transforme, mais il faut aussi agir dans nos manières, par exemple là, de stocker, transporter les données, pour se dire, ben, on va essayer de consommer moins, parce que de toute façon, on sait que les data centers, ça ne va pas s'arrêter, ils vont faire qu'augmenter leur consommation énergétique avec. Donc du coup, il faut essayer de révolutionner un peu le monde un peu partout pour éviter d'aller droit dans le mur, on va dire.
Donc vous pouvez allier comme ça votre conscience citoyenne à votre métier, finalement.
Oui, et aussi finalement notre passion scientifique, parce que je pense qu'on est toutes contentes en plus de réfléchir sur tous ces problèmes scientifiques et de se dire en plus que ben, ça a un impact après sur notre environnement.
Voilà, donc si avant cette émission, vous pensiez que femmes et sciences ne faisaient pas bon ménage, j'espère qu'on vous a bien prouvé le contraire. Merci à toutes les trois d'avoir participé à cette émission et d'avoir fait un effort pédagogique pour nous faire comprendre vos recherches. Et bravo donc pour votre bourse. Restez sur RFI, juste après le flash d'info, nous vous emmènerons au Kenya, au pied du mont Elgon, où 30 000 fermiers sont accompagnés pour mettre en place des méthodes d'agriculture durable grâce à la finance carbone. À tout de suite.
Écho d'ici.